Tu demanderas aux enfants, à un enfant de venir le biberon, hein?
Quoi?
Tu demanderas aux enfants de t'aider.
M'aider.
Pour les moutons. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres chaque fois que j'ai peur. Je m'appuie sur toi. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Jean 17, verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom, donc ta personne, et je leur ferai connaître. Encore, évidemment, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. N'est-ce pas un beau cadeau, chers amis? N'est-ce pas un beau cadeau? Jean 16, verset 27. Le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Sorti, envoyé, incarné par la puissance de Dieu. Chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà, ce sont des beaux cadeaux, de très beaux cadeaux. Jusque maintenant, nous pouvons compter sur ce cadeau de l'amour de Dieu. Tout à l'heure, j'étais dans la prière et à un moment donné, je sors, je vois un gros caca de chat devant la porte, en général, ou dans la maison. C'est toujours le signe qu'il y a une attaque diabolique sur quelqu'un. Et ça n'arrive pas parce que j'ai un bac pour les chats, ils ne le font jamais. Et donc, je me suis retiré dans la prière en voyant cela, et au bout d'une heure, je savais qui je devais aller voir. Et je suis allé voir cette dame, et clairement, c'est vrai, une dame de 52 ans, elle était extrêmement éprouvée et très malheureuse en son âme. Et j'ai pu l'écouter longtemps, c'est une Ukrainienne, et ça prend du temps. La traduction avec le smartphone, le Google Translate, ça prend du temps. Surtout que ce n'est pas toujours très précis. Mais on a pu se comprendre, et on a pu dialoguer. Et je vois, je l'ai revue tout à l'heure, elle était beaucoup plus en paix. Et je lui ai donné ce verset, chapitre 14 de Jean, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas la paix du monde, comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et je méditais ce verset avant d'avoir prié pour connaître qui était en difficulté que je devais aller voir. Je priais avant, plutôt dans la matinée, pour une autre personne qui passait au tribunal avec un mari infâme, qu'il a roulé dans la boue et qui est exigeant au possible, manipulateur au possible, et derrière lesquels, à mon avis, il y a des puissances diaboliques. Et j'étais extrêmement troublé, j'étais attaqué, et je pense que c'était cette personne, bien sûr. Souvent, je ressens ce que les personnes vivent, même qu'il y a des tas de kilomètres, ça peut être à 2000 kilomètres ou à 25 mètres. Ce qu'il y a, c'est que j'ai compris que cette personne avait énormément d'attaques et j'ai supplié le Seigneur de lui donner sa paix, durant la séance du tribunal, sa paix pour écouter les infamies du mari, les mensonges, sa paix pour parler, sa paix pour quand qui tombe la paix de Christ qui tombe sur l'avocate qui la défend, la paix qui tombe sur le juge et le greffier. Et tout cela, bien sûr, je suis certain, quand je prie comme ça pour des personnes, que je suis entendu, que c'est pas pour moi, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour la paix des enfants de Dieu. Selon Jean 16, verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Il y a donc une insistance dans la prière, une requête, une supplication parfois. Lorsqu'on ressent du trouble, on ressent des difficultés d'être, il faut s'incliner, il faut se mettre à genoux, même se prosterner. Il faut absolument supplier le Seigneur de recevoir cette joie parfaite et cette paix qu'on n'a pas dans le milieu, qu'on n'a pas dans le couple, qu'on n'a pas dans la santé, qu'on n'a pas dans les finances, qu'on n'a pas dans les événements politiques, dans les événements du monde, qu'on n'a pas quand on regarde cette TV. D'ailleurs, je la regarde extrêmement peu, peut-être deux fois par mois pour savoir toujours les mêmes trucs. Alors, le Seigneur a toujours eu l'intention de nous rendre heureux, toujours. C'est un bon papa. Et le Seigneur Jésus, son fils aussi. C'est un bon berger, c'est un grand frère qui est plein d'amour, qui a vu qu'on est la paix. Et il dit dans Jean 16, au verset 22 et 23, « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. » Et il nous connaît bien. Hein. « Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et nul de vous, nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien, ben oui, puisque on a tout en Christ. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez en mon nom, au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Évidemment, chers amis, c'est quelque chose de très fort, très fort, qui peut combler un cœur qui souffre, un cœur qui est dans la difficulté, un cœur qui ne voit pas d'issue. Et combien de fois on ne voit pas d'issue à nos problèmes? C'est pas marrant. C'est pas marrant. Et pourtant, écoutez la voix du Seigneur, écoutez ce qu'il vous dit par amour. Spirituellement, vous pouvez être redressé et résister, être en paix alors que tout veut vous menacer et ruiner votre état intérieur. Luc 12, verset 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Luc 12, 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Je pense, oui, qu'à travers le monde, dans peut-être 2 250 millions ou 400 millions de gens qui se disent chrétiens, c'est un peu comme à l'époque d'Élie, il y en a qui fléchissent le genou devant Jézabel et qui fléchissent le genou devant Achab, et ceux-là n'ont pas la paix. Mais il y a des gens comme Élie qui se pensent, qui souffrent, qui pense être tout seul, lâché par Dieu. Et pourtant, Dieu dit à Élie, détrompe-toi, il y en a 7000 en Israël, donc dans les 10 tribus du Nord, 7000 qui n'ont pas fléchi le genou. Eh bien, c'était un petit troupeau, dans la grande adversité. Aujourd'hui, à travers le monde, je ne sais pas moi, il y a peut-être 400 millions de personnes qui sont le vrai petit troupeau, parmi 2 400 000 personnes qui s'affichent comme chrétiens. Mais toujours est-il, le petit troupeau, il n'y a que Dieu qui le connaît. Et nous ne pouvons pas faire la ségrégation en disant celui-là n'est pas chrétien, celui-là n'est pas. Bon, on peut se douter que quelqu'un ne fait pas volonté de Dieu. On peut se douter que quelqu'un n'est pas conforme au plan de Dieu, mais on n'a qu'à prier pour lui et lui tendre la perche et l'aimer. On n'a pas le droit de l'enfoncer, même s'il est infidèle, s'il se comporte mal. Mais Dieu est fidèle à son égard. Il peut toujours revenir vers lui. La personne peut toujours revenir vers lui, comme dans cette parabole de Luc 15 avec l'enfant prodigue. La personne peut revenir vers Dieu comme le fils prodigue. Luc 15, verset 11 jusqu'au verset 32, il est évident que cet homme qui a dilapidé la moitié de la fortune de son père, puisqu'il y a un autre frère, il a droit à l'autre moitié, et qui se retrouve sans rien du tout et complètement malade, complètement déglingué, déprimé et désolé, et qui souffre à l'intérieur de lui de sa propre identité de pécheur, on voit que il se retourne vers Dieu, vers sa famille, et que Dieu court vers lui. Dieu court vers lui. C'est le papa qui court vers lui. C'est le papa qui exprime l'amour, qui restaure cette fils indigne. Combien de fois nous sommes des enfants indignes? Mais Dieu n'exerce pas sa colère sur un enfant, quelqu'un qui est son enfant, il n'exerce pas sa colère, il exécute parfois des corrections, qui parfois sont dures. Mais il n'exprime pas sa colère, il ne l'exerce pas. La colère vient pour ceux qui ont refusé Christ. Alors, nous sommes dans une société où j'ai traité ce sujet hier dans la prédication dans notre église. Vous savez, on n'est pas nombreux dans notre église. Hein, c'est, il ne faut pas chercher le succès, mais il faut chercher les fruits. Mais voilà, nous sommes des enfants de Dieu ensemble, réunis. Et nous avons beaucoup d'assemblées sont comme ça, hein, de toute façon actuellement, et nous avons trouvé auprès du Seigneur une grande paix à travers les chants, à travers la présidence que fait Vincent, qui est toujours bien faite par Vincent. Quand la présidence est faite par Jean-Louis ou par Jackie, c'est assez exceptionnel, hein, elle est faite excellemment, on ne voit pas que la personne peut se mettre en valeur, s'imposer, ou imposer quoi que ce soit, on voit qu'elle s'est humiliée, qu'elle a médité la parole de Dieu, qu'elle présente humblement des vérités qu'elle vit, des vérités venues de Dieu. Et donc, quand quelqu'un fait profil bas devant le Seigneur et présente la présidence ou le message, en général, ça porte des fruits. Nous sommes aujourd'hui le 20, je pense, le 20 juin, lundi 20 juin, et la prédication, c'est la prédication numéro 74. Car parfois, quelqu'un me demande, c'est laquelle? Parce qu'il voudrait la retrouver dans le méli-mélo de toutes les paroles des enseignements que je donne. Donc c'est la prédication numéro 74 du 20 juin, qui correspond à celle du dimanche 19 juin à Gomerie. Alors, mon sujet était celui-ci, avoir soif de Dieu ou être curieux de Dieu. Dans notre monde d'aujourd'hui, il y a un retour vers le Seigneur, souvent, mais il ne faut pas s'y détromper. Nous avons appris, ici dans la maison, avec tous ceux qui sont passés, tous ceux que nous fréquentons, etc., à faire la différence entre quelqu'un qui est curieux, superficiellement, curieux sérieusement, ou quelqu'un qui a réellement soif de Dieu, soif d'être en connexion et connexion obéissante à Dieu. Connexion en vérité. Il y a une différence. Connexion en vérité. Et puis, il y a des personnes, parfois, qui se trompent sur elles-mêmes, elles ont réellement soif de Dieu, mais en connexion avec soi-même, avec un moi-je énorme, qui a un gros problème. Donc, un je qui n'est pas crucifié à la croix de Christ. Donc, il y a, dans une colonne de côté, d'un côté, il y a soif de Dieu, oui, réellement, pour la vérité et pour l'amour à soi-même, pour être crucifié en Christ, et il y a une soif de Dieu réellement, réellement, c'est sans remettre en question un ego assez fort, assez dominant. Et puis, il y a ceux qui sont curieux, curieux superficiellement, qui veulent un peu savoir de tout, qui mettent le nez dans tout, et puis il y a ceux qui sont curieux même sérieusement. Alors, il faut faire une différence dans tout ça. Alors, j'ai choisi un texte, Actes des Apôtres, chapitre 17. Acte 17. Nous nous trouvons, il y a longtemps, dans les années 40, à Athènes, sur une grande place publique qu'on appelle l'Aéropage, en bas de la ville d'Athènes, et en surplomb, au-dessus, il y a l'Acropole, une grosse colline avec un grand temple à la déesse Athéna, la déesse de l'intelligence, de la science des Grecs. Une idole, évidemment. Très adorée. Alors, je vous lis le texte. Acte 17, verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, qui l'attendait? Silas et Timothée, qui devaient le rejoindre. Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. C'est un nerveux, hein? C'est un nerveux. La nature humaine est très, très bouillante dans cet homme. Mais bon, il faut qu'il se calme après, et il va se calmer. Il s'entretenait par la vertu du Saint-Esprit. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Donc les Juifs, c'est les responsables juifs, et les craignant Dieu, c'est ceux qui, les Anawim, c'est les pauvres de Dieu, c'est ceux qui font profil bas, qui sont humbles, dont l'ego ne prime pas, dont ils s'humilient devant Dieu. Et ils ne se reposent pas sur des connaissances de Dieu dans la Torah, sur des connaissances venues de leur tradition, de leur synagogue, pour dire « moi je sais que je suis cela, cela et cela ». Il y a deux sortes de personnes parmi les Juifs à cette époque-là dans les synagogues, comme il y a deux sortes de personnes dans les églises protestantes, catholiques, évangéliques, etc. Ils s'entraînaient donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'ils rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Épicurien, c'est la sagesse de jouir des biens de la vie raisonnablement, avec sobriété. Ça a été déformé ici, dans notre civilisation. Épicurien, c'est un jouisseur, un libidineux, qui ne se prive de rien. C'est pas du tout ça. C'est une philosophie de la sagesse. C'est peut-être un écologiste de l'époque. Alors, des stoïciens, ce sont des gens qui vont jusqu'au bout, qui, quoi qu'ils souffrent, ont une conviction, et une conviction spirituelle forte, qu'il ne faut pas faire le mal, qu'il faut pratiquer le bien, qu'il faut tenir bon dans l'adversité, qu'il faut tenir bon devant le mensonge, l'imposture, etc. Et même dans la guerre, ils étaient, bien sûr, leur enseignement a rendu les soldats grecs très redoutables. Alors, se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur? Déjà, ils l'ont affiché comme un beau parleur, hein, comme un étranger un peu casse-pied, mais on va l'écouter, on ne sait jamais. Si on peut apprendre quelque chose de plus, on verra. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des gens qui écoutent, ils sont parce qu'ils sont curieux. C'est leur plaisir d'être curieux, ils s'ennuient autrement. Hein? Ils sont curieux, est-ce qu'ils sont sérieux ou pas? Ben on va voir. Alors, ils le prirent à part et l'emmenèrent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges, nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Il faut dire que Athènes était une ville extrêmement cosmopolite où toutes les nations passaient. La Grèce avait était une puissance, un peu comme à Paris aujourd'hui. Allez voir sur les trottoirs dans les grandes villes de France ou d'Europe. On se demande qui est français à Paris, on se demande qui est belge à Bruxelles. Mais c'était la même chose à Athènes. C'est le fait des civilisations, quand elles ont une grande influence, elles attirent les autres. Elle attire les autres, et les autres viennent habiter là, les autres viennent circuler, viennent en voyage, etc., viennent voir les belles statues, les beaux temples, les beaux discoureurs, les beaux penseurs, la belle finance, les belles armées, etc., et les belles femmes ou les beaux hommes, et ce qu'il y a, on va, comme ça, passer son temps. Hein? Ou alors, on est étranger parce que on est prisonnier et on est esclave, parce qu'il y en avait beaucoup. Et là, on n'a rien à dire, on est étranger, mais on doit bosser pour ceux qui ne font rien. Alors, Paul, rien neuf sous le soleil. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un dieu inconnu. Ce que vous révérez sans connaître, c'est ce que je vous annonce. » Donc, vous voyez, dans les paroles de Paul, il utilise la corde sensible de tous ces gens, c'est d'avoir des tas de divinités, et de, pour finir, hein, aujourd'hui, il y en a qui adorent Bouddha, Mohammed, Vishnu, Kali, Jésus, enfin, je suis déjà tombé sur des sectes où on faisait tout, hein, le soir de pleine lune, et puis on passait, bien sûr, à l'orgie sexuelle et à tout le reste. Des tas d'abominations. Mais en tout cas, franchement, ça existe. Ça existait, ça existe encore. Et toutes ces formes de dévotion ne sont que des façades, parce qu'après, quand on se lâche, on se monte autrement. Alors, il découvre un autel, une inscription, un dieu inconnu. Et c'est vrai qu'il y a 3 siècles avant, 350 ans avant, il y a eu la peste, le choléra, une maladie grave en tout cas qui décimait la Grèce et surtout Athènes, et c'était le désespoir total. Et il est venu un prédicateur de l'île de Crète qui a dit « Mais il faut se repentir, il y a un dieu dans les cieux, un dieu dans les cieux qui vous demande de changer de vie, de vous repentir et de vous conduire convenablement. » Pensez à Jonas qui est venu à Ninive. Ils ont obéi. Eh bien, figurez-vous, sans doute que c'était quelqu'un aussi du monde juif, parce qu'il y avait beaucoup de juifs à l'île de Crète, depuis très très longtemps. Eh bien, quelqu'un qui a prophétisé, qui avait le courage de dire ce qu'il fallait dire, comme Jonas. Jonas, lui, il a refusé, mais lui, ici, je pense que c'est Démétrius, le nom de ce monsieur. Eh bien, il a foncé, il a dit. Et la ville s'est repentie. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la maladie s'est stoppée, s'est arrêtée. Et il est resté des vivants. Dans le grand carnage de la maladie, il est resté encore des vivants. Au moins un quart de la population. En reconnaissance à ce Dieu inconnu qu'ils n'ont pas cherché à connaître, c'est ça qu'il faut dire, ils n'ont pas été demandés à ce monsieur où il avait été le connaître. Ils n'ont pas été demander la Torah dans les synagogues à l'île de Crète. Ah non, non. Ils sont retournés dans leurs pantoufles et dans leurs habitudes. Et ce qu'il y a, ils ont fait quand même une statue. pour reconnaître que ce Dieu inconnu leur avait fait du bien. Et ces statues, on en a retrouvé une dans l'archéologie, une ou deux. C'est évident que ça existait. Alors voici ce que dit l'apôtre Paul, profitant de ce monument, ce stèle. Il va prêcher. Enfin, il va parler de Dieu. Le Dieu qui a fait, au verset 24, acte 17, verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Donc, pas de temple grec ou babylonien, chaldéen, romain, et encore aujourd'hui, pas dans les basiliques, les cathédrales, les mosquées, les temples. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Le vrai temple que Dieu demande, c'est mon cœur, mon âme. Il veut y habiter. Et pour ça, il faut que je renonce à mon péché, que j'accepte Jésus. Alors, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme, des tas de pierres. Quand vous voyez dans nos pays ici qu'on voit un tas de pierres avec un clocher, une croix et un coq, on dit que c'est une église. C'est faux. Le mot église représente une communauté de gens qui croient en Jésus-Christ durant les trois premiers siècles dans la Bible. C'est avec l'empereur romain qui a obligé des tas de gens à être baptisés, hein, en multitude, sans avoir la foi, et puis ça a continué, bien sûr. Eh bien, cet empereur romain a créé un autre style. Des temples de pierre en l'honneur de Dieu. Alors qu'il y avait, avant, c'était des temples humains, habités du Saint-Esprit. Ce Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, celui d'Adam et Ève, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc, il a fixé la durée de la vie de chacun. Et leur demeure, ben, l'espace où ils sont nés, l'espace où ils vivent. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Et le verbe en grec, ça veut dire, j'ai un bandeau sur les yeux, je suis au milieu d'un rond, il y a des personnes autour de moi, je m'avance, j'essaie de les reconnaître en mettant mes mains sur les visages, sur les mains, sur les corps pour reconnaître des personnes. Tâtonner, c'est pas forcément qu'on réussit à reconnaître la personne, mais on essaye. Et donc, les hommes tâtonnent parce qu'ils ont les yeux bandés. Et bien sûr, Ésaïe dit cela, c'est à cause du péché qu'on ne voit pas Dieu. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui, nous sommes la race. De lui, nous sommes la race. Ça, c'est en Cilicie, c'est une partie de la Turquie actuelle, ça faisait partie de la civilisation grecque à cette époque, et romaine. C'est un poète, Aratus, trois siècles avant Jésus, qui a dit cela. Mais il a été trouvé cela aussi dans un psaume. Donc la Bible a eu une influence, plus qu'on ne pense, dans le monde païen. La Bible a eu de l'influence et ne vous faites pas d'illusions, même ici quand on se moque, quand les gens refusent et ne veulent pas bouger, ils ne veulent rien changer, hein. Je reste comme je suis, hein. Je les aime bien les évangéliques, mais qui ne me forcent pas à changer, hein. Bientôt, qu'on fait, et ils se sont attirés vers nous, ils entendent des choses, et puis, ils se convertissent pas. Peut-être 2 heures avant la mort ou 5 minutes, mais ce qu'il y a, chers amis, c'est qu'ils n'ont pas décidé d'aimer Dieu. Autrement, ils se convertiraient tout de suite. Ils sont curieux superficiellement et ils sont attachés à leur ego, à leur moi-je. Oui, leur moi-je. Le moi-je est une grave maladie. La tradition dans notre cœur, c'est une excuse. C'est une excuse pour rester ce qu'on est sans rien changer. Alors que Dieu veut qu'on nous transforme totalement. Dans le psaume 8, 1000 ans avant Jésus, donc 7 siècles avant le prophète Aratus. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Psaume 8, verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Voilà. Notre cher Aratus avait sans doute entendu encore un prédicateur juif, un témoin, pas de Jéhovah, mais un témoin de Dieu, de l'Ancien Testament, de la Torah. Alors, on voit bien l'influence, mais ça, rien n'y a bougé. Eh bien, on va voir si avec Paul, ça va bouger. Que dit Paul ? Verset 29, acte 17, verset 29, « Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. » Donc, pas des statues, pas des croix, rien du tout. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, parce que c'est vraiment ça, l'ignorance règne, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. C'est-à-dire, métanoïa a changé complètement, à se retourner complètement. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, donc sa sainteté et sa vérité, par l'homme qu'il a désigné, Jésus-Christ, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, Denis l'Aéropagite, donc un membre de ce grand conseil des sages grecs, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Donc quand vous entendez le prénom Damaris, vous le trouvez dans acte 17 au verset 34. C'est un beau prénom. Donc, vous voyez ici, une petite minorité va avoir réellement soif de Dieu de la vie qui vainc la mort à la croix et qui vainc le péché et qui transforme l'homme par la puissance du Saint-Esprit. Donc, il y a une différence entre avoir soif de Dieu et dire « je crois en Dieu, même en Jésus-Christ » et ne pas vouloir être transformé. Ça, c'est soif de quoi? Oui, c'est soif de Dieu, mais c'est comme si je montais un escalier, je monte à l'étage, mais je monte pas les 12 marches, j'en monte 6 et je dis je suis arrivé. C'est comme si je prenais un bus, je dois aller jusqu'à Arlon et je m'arrête à Saint-Léger en disant je suis arrivé. Non! Ça, c'est vraiment de la blague. C'est soi-même se tromper. Se tromper. On ne veut pas aller jusqu'au bout de la recherche. Parce que on sait très bien que si on va au bout de la recherche, on doit tout perdre, complètement changer. Et comme Jésus l'a dit, celui qui me donne sa vie, la sauvera. Celui qui ne veut pas la donner, qui veut la conserver pour lui-même, la perdra éternellement, évidemment. La soif de Dieu est donc peut se distinguer, elle existe, mais il y a des demi-soifs, et il y a des soifs complètes. Il y a des soifs qui ne sont jamais rassasiées, et vous l'entendez dans les conversations, les gens n'ont jamais trouvé vraiment la connaissance de Dieu, ils n'ont pas de relation avec Dieu, ils en parlent, mais bon, ils parlent de religion. Et puis ensuite, il y a ceux qui ont vraiment la vie avec Dieu, et ils ont en eux un trésor, la présence de Dieu, du Saint-Esprit. Et c'est merveilleux, chers amis, de vous confier cela. Hier, nous allions dans un petit village d'Ardennes, à 45 kilomètres d'ici, où un de nos fils jouait un concert de musique américaine avec 5-6 gars du même âge que lui. Et nous arrivons, il y a un monde fou. Donc nous, on se met un peu en retrait, on ne sait pas trop, on arrive à 5-6 heures du soir pour écouter notre fils. Mais eux, ils faisaient déjà la fête depuis le jour d'avant. En Ardennes, ils aimaient faire la fête longtemps. Et même certains villages de Gaume. Et autre part aussi, dans d'autres pays. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on était là, et on regardait, on était en retrait, et il s'est amené un enfant de 9 ans, un garçon, qui, droit dans les yeux, vient dire, Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous? Pourquoi est-ce que vous venez ici? Alors on dit, ben on vient écouter notre fils qui a fondé un groupe musical et qui va chanter dans une demi-heure. Ah oui. Alors je lui dis à ce brave petit garçon, parce que il était vraiment avenant, très sympathique. Je lui dis, et toi, tu fais quelque chose sur la terre? Oh non. Pourquoi, ça ne sert à rien d'être sur la terre? Oh, vous savez, monsieur, l'homme ne sert à rien sur la terre. L'homme ne sert à rien sur la terre, monsieur. Il avait déjà compris la nullité de la mondanité du monde tel qu'il existe, la nullité absolue. Je dis, mais comment t'appelles-tu? Je m'appelle Simon. Et ça, sa sœur, qui avait 2 ans de plus, était là, elle écoutait, puis un copain. Mais je dis, tu peux servir à quelque chose toute ta vie. Tu connais Jésus? Oui, notre maîtresse à l'école en parle. Et tu connais le grand commandement de Jésus? Oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu te trompes, mon ami. Il a dit ceci, c'est un homme riche qui vient demander pour avoir la vie éternelle. Oui, je le sais, monsieur. Eh bien, Jésus l'a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un seul commandement. Va et tu vivras. Et le jeune homme dit, mais qui est mon prochain? C'est un jeune homme riche, religieux, qui avait ses habitudes religieuses. Et tu sais ce qu'il y a après? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Oui, je sais, monsieur, il y a un pauvre qui est blessé, qui va mourir sur le bord du chemin, et il y a un monsieur qui est étranger, qui vient et qui pense ses blessures, et qui le ramasse. Ah, c'est la parabole du bon samaritain. Alors je lui raconte la parabole du bon samaritain de cet homme qui nettoie les plaies avec du vin, qui met de l'huile, qui met des pansements, qui l'amène à l'hôtellerie. Et qu'est-ce qu'il a fait à l'hôtellerie? Il a donné de l'argent, monsieur, de sa poche. Et puis il a dit quoi? Ben je reviendrai. Si ça a encore coûté plus cher, je donnerai. Qu'est-ce que tu penses? Ben il aime vraiment son prochain. Alors, mon cher ami, tu vois, cet homme, il sert à quelque chose sur terre. Il sert à quelque chose sur terre. Et tu viens de me dire que l'homme ne sert à rien sur terre. L'homme qui aime Jésus, qui aime la volonté de Dieu, sert à quelque chose sur terre. Celui qui a donné sa vie à Jésus, qui fait la volonté de Dieu, sert à quelque chose, il sert à la gloire de Dieu, il sert au bien des hommes pour Dieu. M'écoutez. C'est vrai, monsieur, c'est vrai. Et la grande fille, qui avait 11 ans, 11, 12 ans, disait, oui, c'est vrai, on le croit. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez servir à quelque chose sur terre, mais si vous vous laissez impressionner par tout ce que vous voyez et par les mensonges, il y a des gens qui disent aimer Dieu, puis c'est pas vrai. Vous allez vous dégoûter et vous direz, il n'y a rien à faire sur terre. Vous allez être malheureux sur terre. Mais regardez à Jésus. Alors, mes enfants, est-ce que vous avez une Bible? Ben non. Eh bien, je vais faire un paquet, je vais donner une Bible en images, un livre en images et une Bible pour ta sœur et toi. Je la déposerai chez mon fils. Dans une semaine, vous irez la chercher. Voilà donc un enfant qui a plus que soif de Dieu. Il veut réellement trouver le sens à sa vie par Dieu. Le regard, l'attitude était rempli de droiture et de bienveillance. Puisse cet enfant ne pas être corrompu, ni par le laisser-aller de ses parents, ni par les mensonges de ses parents, les mensonges des traditions religieuses. Puisse cet enfant se confie en Jésus le plus vite possible. Puisse cet enfant servir Dieu Il y a tellement besoin de serviteurs et de servantes de Dieu authentiques sur terre. Comment se fait-il que nous qui sommes en retrait de la foule, ces 3-4 enfants, dont ce petit Simon, se dirigent vers nous? Je pense que les enfants ont quelque chose en eux que les adultes ont perdu, ou en tout cas s'ils l'ont encore, ils le refoulent et ils ne veulent pas aller plus loin, ils ne veulent pas changer de vie. Un enfant allait vers Jésus à l'époque de Jésus. Et c'est les adultes, même les disciples de Jésus, qui les refoulaient, les repoussaient. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus? Ne les repoussez pas. Laissez venir à moi les petits-enfants. Je pense qu'à l'âge de ce petit garçon de 9 ans, de déjà 7 ans, parfois avant, mais jusque 11-12 ans, c'est la période la plus belle. C'est le terrain le plus propre pour semer l'évangile. Et si les parents laissent ces enfants aimer Jésus et connaître la parole de Dieu, les parents feront des gens de valeur, des gens qui serviront Dieu comme Dieu le veut. Mais si les parents ont la tête dure, le cœur dur, ils vont les freiner, ils vont les écarter de Jésus, ils vont les approcher de l'athéisme, ou les approcher des rites religieux, de la religion, du paraître. Les parents en question, souvent, ont peur du vrai changement. Les adultes ont peur du vrai changement. Or, les enfants peuvent être un déclencheur, un dynamisme dans une famille pour que toute la famille se convertisse. Toute la famille appartienne éternellement à Dieu et aille au ciel. Vous voyez, on n'est pas dans la blague, puisque cet événement vous montre bien. Nous quittons cet endroit et nous allons à autre part pour assister au spectacle donné par cette équipe de musiciens, violonistes, etc., dont fait partie notre fils. Lui, il chantait, il jouait de la guitare. Puis on est sur un banc, et sur le banc vient s'asseoir un jeune homme de 30 ans, un petit peu d'apparence espagnole comme ça, très élégant, jeune, mais simple, et une jeune fille, plutôt d'apparence sicilienne, modeste et jolie. Des jeunes, modestes et beaux. Ils s'asseyent là, et puis on écoute la musique, et puis on finit par se parler, et on finit par faire connaissance, et sans doute qu'on se reverra. Ils auront aussi, s'ils le veulent, une Bible, ils auront aussi des livres. Chers amis, ont-ils sauvé réellement? Toujours est-il, quand je suis rentré du voyage, j'ai cliqué sur mon smartphone et la jeune fille avait déjà envoyé un message à mon adresse email. C'est déjà indicatif. Chers amis, êtes-vous curieux sérieusement de la personne de Dieu? Êtes-vous vraiment assoiffé? Assoiffé de Dieu. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Vous savez, chers amis, pour que ces événements se passent comme ça, avec ce petit groupe d'enfants, ça a duré sûrement 3 quarts d'heure, notre entretien, et puis ensuite au moins 1 heure avec le jeune couple, et puis après avec d'autres. Il y en a encore d'autres que je porte dans mon cœur et dans la prière. Il y a encore un autre couple que j'irai visiter, qui m'ont dit où ils habitaient. Pourquoi cela se passe? Il faut absolument avoir donné sa vie à Jésus. Alors Jésus se sert. Jésus met quelque chose en nous que les gens assoiffés voient. Et c'est à eux de choisir. Je m'approche de ces personnes qui sont autrement que les autres. Je m'approche de ceux-là qui vivent, qui pensent, dont je ressens qu'ils ont un autre motif de vivre que nous. Ou je fais semblant de pas voir, ou je fais semblant d'être gentil, mais je vais pas plus loin. Ou je m'en fous et je les déteste. Tout cela fait partie des décisions du cœur de chacun de nous. Tout cela fait partie des décisions de l'esprit. Est-ce que ma pensée est honnête? Est-ce que mon cœur est droit? Quand Dieu m'appelle, vous savez, mes amis, j'étais dans le cas quand j'ai rencontré les premières personnes vraiment habitées de Dieu, nées de nouveau. J'étais dans le cas, j'ai résisté longtemps, comme un chien qui ne veut pas manger son os. Je peux vous dire que notre nature humaine n'est pas honnête. Elle aime rester dans le péché, dans son cachot. Elle aime rester avec le bandeau sur les yeux. Elle aime rester avec ses oreilles bouchées, avec ses yeux fermés. Mais c'est pas vivre cela. Ce n'est pas la vie, ça. C'est pas ça que Dieu veut pour nous. Dieu veut beaucoup mieux. Romains 12, verset 2. Versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions, donc l'amour de Dieu, à offrir vos corps, donc corps, âme et esprit, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de vous, de votre part, un culte raisonnable. Un culte raisonnable, c'est-à-dire où la raison fonctionne. La raison fonctionne. Quand on aime Jésus et qu'on se donne, c'est que la raison fonctionne. Avant, elle était endormie, elle était morte. On l'a piétinée. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Aion, en grec, ça veut dire à la société, au monde, à ses traditions, à ses pensées. Ne vous conformez pas au monde présent, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bon, agréable et parfait. Donc, il faut se laisser transformer. Et transformer comment? Par le Créateur. Par le Créateur, mes amis. Le Créateur peut me transformer. Le Créateur, puisque Jésus est mort sur la croix et que les portes du ciel sont ouvertes, le sang de Jésus est puissant pour changer ma vie, ma pensée. Alors, je vous lis un autre texte. Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 21. Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 21. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Vous vous rendez compte que vous portez un nom de famille et un prénom, ça vient, c'est Dieu qui l'a permis. Et vous, vous croyez que c'est automatique. Mais c'est de la bêtise, pure et simple. Alors, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, de sa puissance éternelle, si vous voulez, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, au fond du cœur, au fond de l'âme, au fond des pensées, être fortifié, rendu fort par l'Esprit divin. Parce qu'en fait, quand quelqu'un fait la moitié du chemin, quand en fait quelqu'un voit et ne bouge pas, c'est parce qu'il est faible. C'est par faiblesse qu'il ne fait, qu'il ne bouge pas, qu'il ne va pas faire Christ. Mais il ne l'avoue pas. Et s'il le ressent qu'il est faible, il va peut-être bouger, peut-être qu'il va fuir encore plus. Alors, la richesse, la puissance, puissamment fortifiée par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, on n'est plus dans la mascarade, dans l'extérieur, on est dans l'intérieur, le travail de l'intérieur, de l'âme, de l'esprit, du cœur, exécuté par le puissant Saint-Esprit, par Dieu. En sorte que Christ, donc Jésus, habite dans vos cœurs par la foi, par la confiance, par l'adhésion personnelle. Libre et volontaire, étant enraciné et fondé dans l'amour. Christ dans ma vie et des racines me poussent dans mon âme, dans mon esprit, des racines qui vont puiser partout dans l'amour de Dieu toutes les forces nécessaires, comme un arbre qui pousse dans un bon terrain au bord de l'eau, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, connaître l'amour de Jésus-Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de la plénitude de Dieu. Celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, le Saint-Esprit, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église de Jésus-Christ et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons et nous demandons. Il suffit d'avoir ouvert la porte. Rappelez-vous Apocalypse 3:20, « Voici, je suis derrière votre porte, je frappe. Si vous entendez ma voix et que vous m'ouvrez la porte, j'entrerai chez vous, je mangerai avec vous et vous mangerez avec moi. » Le repas donne la force. Si surtout, c'est le repas où Christ me partage sa vie, donnée à la croix et à Christ ressuscité et vivant. Cette profondeur, cette largeur, etc., enracinée, fondée dans l'amour, j'ai pensé que le psaume 1 donnait une très belle image de cette vie divine. Mes chers amis, priez beaucoup pour mon ami pasteur Saïd au Pakistan. Priez beaucoup. Il a eu un accident avec sa moto est cassée. Il va falloir retrouver une autre moto, sûrement 350-400 € au minimum. Et puis il va falloir qu'il se retape et puis qu'il n'ait pas de misère. Et j'espère que il faut continuer à prier parce que si Satan commence à lui jouer des sales tours. Que sa communauté prie, mais que nous, ici, dans nos pays, on prie pour un serviteur de Dieu qui s'engage fortement. Vous savez, mes amis, je sais que parmi vous, il y en a qui prient pour moi. Croyez-vous que je tiendrai? Je ne peux pas tenir sans votre prière, les amis, sans votre intercession et sans la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas possible. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Que fait l'homme qui est influencé par le monde? Il se laisse conduire par les critiqueurs, par les moqueurs, et il n'ose pas les reprendre. Il n'ose pas leur dire qu'ils font fausse route. Il s'arrête et il s'assied, il ne bougera plus. Il tombe dans la même situation qu'eux. C'est la situation du passif, du paresseux moral, du paresseux spirituel. Il finit par sombrer avec les autres. C'est l'histoire du Titanic, du grand bateau, où on faisait la Java, la fête, et un jour un iceberg, un gros bloc de glace, a heurté le bateau, en pleine nuit, en plein brouillard, et le bateau a coulé. Il y avait 2 000-3 000 personnes dedans. Ils sont morts. Et en partant de Brest, du port en France, le commandant avait dit, personne ne peut couler mon bateau, même pas Dieu. Il n'a même pas exécuté un seul voyage complètement. Voulez-vous exécuter votre seul voyage que vous avez à faire en étant né? C'est arriver à Dieu. Voulez-vous sombrer en cours de route? Vous n'avez qu'un voyage à faire sur terre. Ne vous percez pas d'illusions. Vous n'avez qu'un voyage. Voulez-vous sombrer en cours de route? Si vous ne voulez pas, ne vous arrêtez pas, ne vous asseyez pas, n'adhérez pas à ceux qui se moquent de Dieu. Donc, heureux, psaume 1, verset 2, heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, donc dans la parole de Dieu, et qui la médite jour et nuit. C'est-à-dire, c'est pas 5 minutes. C'est pas plic-ploc, seulement au culte. Pas accidentellement quand j'y pense, ou parce qu'il faut. Il la médite jour et nuit, par amour, par plaisir. Plaisir de la communion avec Jésus, avec Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Cette image-là au verset 3, de l'arbre planté au bord d'un courant d'eau, est-ce que ce n'est pas la même chose que ce que j'ai lu dans Éphésiens, enraciné et fondé en Jésus-Christ, pour puiser les forces en Jésus-Christ? C'est lui le courant d'eau, d'eau vive. Qu'est-ce qu'il a dit à la Samaritaine? Si tu savais le don de Dieu, tu me demanderais de l'eau et tu n'auras plus jamais soif. Chers amis, si vous êtes encore dans l'état de la Samaritaine, d'un homme et d'une femme qui vagabondent sur la terre, dans ses propres égarements, ses plaisirs frelatés qui donnent un peu de bonheur et beaucoup d'affliction, si vous êtes encore sur ces chemins-là, s'il vous plaît, arrêtez-vous à Jésus. Il vous donnera la vraie vie éternelle, la vraie boisson de votre âme, et vous continuerez votre chemin jusqu'au jour où vous le verrez face à face. Quel bonheur! Quel bonheur! Au verset 4, il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Vous voyez de la paille sur les champs, et vous vous dites, mais comment ce serait que le vent là, emporterait? Eh bien moi, quand j'étais enfant, j'avais 8-10 ans, mes parents m'envoyaient parfois dans les champs avec une fourche et un râteau, et je faisais des lignes de foin, de paille, je faisais des meules. Quand le sol était fort humide, il fallait faire des meules pour qu'il soit moins en contact avec le sol. Puis le lendemain, on retournait le meule, et puis après, on venait le chercher. Mais ce qu'il y a, chers amis, un jour, au fur et à mesure que je faisais les meules, à un moment donné, je me suis retourné. Il n'y avait plus de meules derrière moi. Et il y avait un vent, il faisait très chaud, un vent qui tourbillonnait, un tourbillon, et chaque fois, les meules que je faisais partaient en l'air. Ils partaient, je voyais la paille et le foin qui montait en l'air, et je ne voyais plus rien. Est-ce que vous voulez être comme quelqu'un, comme ça, qui disparaît, dont il ne reste rien? Ou est-ce que vous voulez être précieux dans les mains de Dieu, comme un trésor unique, un enfant bien-aimé? Quand vous lisez le texte de Jean chapitre 10, « Nul ne vous ravira de la main de votre Père, de mon Père. » Il faut accepter le bon berger, Jésus. Lisez Jean chapitre 10. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Donc, au jour du jugement, les méchants, les railleurs, les moqueurs, les gens qui s'opposent ne résisteront pas quand Dieu va juger. Mais le problème, l'assemblée des justes, il y a déjà des justes sur terre, il y a des gens qui ont la foi, qui servent Dieu, qui ont une véritable foi. Même ces gens-là, quand ils mettent le nez 5 minutes ou 2 heures dans un culte, dans une réunion de chrétiens nés nouveaux, après on ne les revoit plus. On les voit 2-3 fois, puis on ne les voit plus. Assez bizarre qu'ils ne résistent pas à l'assemblée des justes. Assez bizarre qu'ils ne veulent pas aimer ceux qui aiment Dieu. Ils viennent, ils regardent tous les défauts, puis ils s'en vont. Pour mieux critiquer, c'est les railleurs et les moqueurs, avec lesquels il ne faut pas partager trop de temps. On peut les aimer et prier pour eux, on peut prendre patience, mais partager trop de temps, se plaire avec eux, ça risque bien de nous corrompre. Paul l'a dit dans la première aux Corinthiens, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Verset 6, l'Éternel connaît la voie des justes, donc de ceux qui sont pardonnés de leurs péchés, qui sont justifiés, qui sont conduits par la sainteté, la justice de Dieu, et il connaît la voie des pécheurs qui mène à la ruine. Le psaume 1, donc, avoir soif de Dieu ou être curieux de Dieu? Avoir soif complètement ou à moitié? Avoir être curieux sérieusement ou à moitié? Tout cela, c'est le problème de chacun de nous. Amos 8, 11. Amos 8, 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles jeunes filles et les beaux jeunes hommes mourront de soif. Il y a donc un jour où on pourra chercher, mais il n'y aura plus rien à trouver. Oui, quand l'Église de Christ sera enlevée dans le ciel, durant la tribulation, il y a des gens qui vont se réveiller et qui vont avoir mal, très mal. Ils vont souffrir avec l'Antichrist, ils vont souffrir avec les démons qui vont être dirigés. C'est la période de tribulation quand l'Église sera enlevée. Mais ce qu'il y a, Dieu dans sa miséricorde, va encore en sauver, fort heureusement. Mais ils vont tellement souffrir de faim et de soif spirituellement. Et avant, ils étaient soif, ils avaient une soif à moitié. Avant, ils étaient curieux, superficiellement. Ils ont trop joué avec Dieu. Comme dit Osée, ils portent la peine de leurs péchés. Prenons Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Cet enfant qui va recevoir une Bible pour enfants avec des images, et sa petite sœur aussi, sa grande sœur plutôt, je suis certain ils vont aimer. Toute la conversation de trois quarts d'heure hier avec eux était formidable. Et on s'est quitté parce qu'il devait aller à la tribune pour chanter avec tous les autres enfants et l'institutrice. Autrement, il serait resté, on aurait continué la conversation. Mais maintenant, le monsieur de 30 ans et la jeune fille de 22 ans, eux, la conversation était moins profonde. Elle est plus timide, plus réservée. Parce que la soif a été piétinée. La soif de ces jeunes adultes qui, dans ce monde, se demandent ce qu'ils peuvent faire pour être heureux et qui ne veulent pas d'enfants, souvent, ici en Occident, leur soif a été piétinée à un moment donné entre 7 ans et 12 ans. C'est le moment le plus remarquable où la bonne terre, il faut l'ensemencer et il faut distribuer la parole de Dieu et il faut enseigner et expliquer. Ça restera toujours parce qu'ils sont sérieux. En général, pas tous, mais ils sont sérieux avec Dieu à ces tâches-là. Après, on leur apprend à ne pas être sérieux. On apprend à tourner le dos à Dieu et à choisir l'athéisme ou choisir les rites religieux qui ne vont rien nourrir dans l'âme. Une belle façade. Jean chapitre 15, Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Un enfant a vite fait de comprendre, en lisant l'amour de Jésus dans l'Évangile, ou un grand enfant, un adulte qui a un cœur d'enfant, en lisant l'Évangile, il a vite compris que Jésus l'appelle et le choisit. S'il se laisse faire, c'est gagné. C'est gagné. Mais si il est rebelle. Il aime bien de rester ce qu'il est. Il n'y a pas de place pour Jésus. Peut-on mettre du plâtre sur un mur pourri qui est prêt à crouler? Non. Il faut que le cœur accepte d'être aimé, accepte d'être choisi. C'est là que se trouve notre responsabilité. Chapitre 6, verset 65 de Jean. Je trouve passionnant d'évangéliser. Je trouve passionnant d'apporter la parole de Dieu. Mais avec un grand réalisme, avec beaucoup de prières, avec beaucoup de foi, avec beaucoup de discernement. Si vous aimez servir le Seigneur, cherchez quelqu'un qui vous apprend à vivre dans le discernement, dans la vie spirituelle profonde, dans la parole. Si vous aimez le Seigneur, n'en restez pas à quelques bagatelles. Le temps des bagatelles est fini. Satan va bientôt régner sur la terre quand Jésus va enlever les siens. Jean 6, verset 65. Je vous le dis, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Effectivement, ce groupe d'enfants hier, on voyait bien que c'est Dieu qui les a poussés vers nous. On voyait bien que c'était Dieu qui les a laissés s'exprimer et qui avait un si beau regard ouvert à la vérité de Dieu, pourvu que les adultes n'éteignent pas la flamme qu'il y a dans leur âme, ni l'école, ni la société, ni la publicité pour le sexe, pour l'argent, pour les moiseux. J'ai, dans Jean, chapitre 14, verset 27, Jean, chapitre 14, verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, que le monde n'est pas en mesure de recevoir, si vous restez tel que vous êtes, que vous voulez rester comme vous êtes, vous ne pouvez pas recevoir l'Esprit divin de Dieu. Donc vous n'êtes pas sauvé, vous ne serez pas au ciel. L'Esprit de Dieu que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Vous voyez, l'être humain, dans sa mondanité, dans ses habitudes, ne voit pas où agit l'Esprit divin. Il ne voit pas où est l'action de Dieu. Il ne voit pas où est l'œuvre de Christ. Sauf si, tout à un moment donné, dans son blizzard, dans son brouillard, Jésus l'appelle. Dieu l'attire vers Jésus. Alors c'est le bon moment. Mais vous, vous le connaissez, car l'Esprit de Dieu demeure avec vous. Il sera un jour en vous, à la Pentecôte. Le vœu de Dieu, c'est que nous ayons ce trésor divin, sa personne divine en nous. Voulez-vous ce beau trésor? Voulez-vous être abreuvé, rassasié? Voulez-vous être abreuvé? 1 Corinthiens, quelqu'un qui a accepté Jésus, voilà ce que le Saint-Esprit dit par la bouche et la plume de l'apôtre Paul. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous avez été racheté à un grand prix, la mort de Jésus à la croix et la résurrection. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà la dimension spirituelle du chrétien et d'une église. Alors, un chrétien peut, parce que c'est une manie qui s'est répandue depuis 30-40 ans en Europe, surtout depuis les 10-15 dernières années, on trouve plein de chrétiens hors des assemblées. Des chrétiens sans communion, sans communauté avec les autres chrétiens. Je vous donne un exemple. Avant-hier, durant la nuit, à 3h30 du matin, nous avons deux petites brebis, et pour la première fois, nous avons mis dans une cabane, une petite maison, dans la prairie, avec de la paille. Et avant, j'étais toujours dans une petite maison avec les poules fermées. Et puis, il fait trop chaud, les moutons ont de la laine, il faisait trop chaud la nuit, il faisait jusqu'à 28, 30 degrés dans cette petite maison, ce poulailler. On les a sortis pour qu'elles soient au frais. Et qu'est-ce qui se passe à 4h du matin? On avait laissé des portes, des fenêtres ouvertes, tellement il faisait chaud pour la nuit, qu'on entend un renard qui hurle, mais fortement, à quelques mètres de la maison, donc tout près des moutons. Donc, nos filles, ma femme, courent vite, et qu'est-ce qu'elles voient? Un énorme renard, fox en anglais, un énorme renard, qui hurlait, qui était à 40-50 cm des deux moutons, et qui hurlait. Que faisait-il, chers amis? En hurlant, et tel qu'il le faisait, si les deux moutons ne restaient pas unis ensemble et qu'ils commençaient à courir, à apeurés et à se sauver, le renard attaquait la brebis la plus faible. Le mâle était plus costaud déjà, la brebis était plus faible. Il l'attrapait par une patte ou par l'oreille, par la gorge, il la saignait et il la dévorait. 15 jours avant, on entendait dans les buissons, à 80 mètres de chez nous, un animal qui avait été pris par ce renard, un animal sans doute un chat, qui hurlait, ça a duré une grosse demi-heure, où il y avait une bataille, et l'animal a péri. Le renard est donc cet animal qui vient tout près de nos maisons, a déjà mangé un lapin et 4 poules. Donc, il voulait la plus petite des brebis. Qu'ont fait les brebis? Sont restées ensemble, unies, une contre l'autre, et sans bouger, le temps qu'on arrive. Si elles avaient paniqué, le renard faisait la faim de la petite brebis. Cette image pour vous dire ceci. Si vous abandonnez votre assemblée, vous abandonnez toute communion avec les autres chrétiens, vous allez vous retrouver seul devant les attaques de Satan. Et Satan aura votre peau. Dans la période actuelle, il n'y a personne qui pourra tenir le coup très longtemps comme ça. Ne jouez pas ce jeu de vouloir être chrétien tout seul. Jésus a toujours dit ceci, Jean 13, verset 33 à 35, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On vous reconnaîtra à ce signe que vous vous aimez les uns les autres. » Les deux brebis étaient restées une contre l'autre. Car le lion rugissant tourne autour de nous. Et s'il fait, il crée la panique, il nous aura tous l'un après l'autre. La communauté d'une église, c'est la communauté de l'amour, la communauté de la prière, les uns pour les autres, la communauté de l'intercession, les uns pour les autres, la communion du pardon aussi, la communion de la compassion, la communion de la parole de Dieu, la communion malgré les défauts de chacun de nous. La communion malgré tous les défauts que nous avons. Cela vaut mieux que d'être dispersé et dévoré par Satan avant d'être enlevé tout près du Seigneur. Restons unis. L'unité est précieuse dans le Saint-Esprit, dans la vérité, dans l'amour, dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes lundi. C'était la prédication.
T'as dépassé de 25 minutes.
Prédication 74. Un mercredi. Dieu vous bénisse.